France Culture.
Et c'est le journal de la rédaction avec Thomas Cluzel. Rebonjour Thomas.
Rebonjour Marie, bonjour à toutes et à tous. La guerre au Moyen-Orient est entrée ce matin dans son 18e jour sans qu'aucune issue rapide ne soit pour l'heure envisageable. Bien au contraire, puisque les frappes sur l'Iran se sont encore amplifiées la nuit dernière. Nous serons à Téhéran dès le début de ce journal. On fera le point également sur l'élimination annoncée par l'armée israélienne de deux cadres parmi les plus importants de la République islamique. Et puis on s'intéressera à la situation humanitaire désastreuse au Liban, où un sixième de la population a été déplacée de force depuis le début de ce conflit. À suivre également la guerre entre l'Afghanistan et le Pakistan. Une explosion hier soir dans un hôpital de Kaboul aurait fait plus de 400 morts. En France, même si les candidats ont jusqu'à ce soir 18h pour déposer leur liste définitive, la configuration du second tour est déjà connue dans la quasi-totalité des grandes agglomérations. Les tractations ont été intenses et certaines fusions sont aujourd'hui très commentées, à commencer par l'Alliance des Socialistes aux Insoumis, on en parlera avec notre invité. Enfin, on détaillera le dernier baromètre de l'accès aux soins publié par la Fédération Hospitalière. Baromètre qui, comme on l'imagine, malheureusement, donne assez peu de raisons de se réjouir. Après s'être lancé seul et avec une improvisation déconcertante, sans doute encouragée par Israël dans une guerre contre l'Iran, voilà que Donald Trump mesure désormais chaque jour les méfaits de son opération, laquelle non seulement n'a toujours pas réussi à répondre à un seul des nombreux objectifs contradictoires avancés par l'administration américaine pour justifier cette attaque, mais créer par ailleurs les conditions d'une crise énergétique. Et face à l'échec étourdissant de cette opération, eh bien les alliés des États-Unis, déjà échaudés par des mois d'humiliation diplomatique et qui n'ont jamais été consultés, n'ont pas souhaité hier apporter leur soutien au locataire de la Maison-Blanche, lequel leur avait réclamé de l'aide pour rétablir la circulation maritime dans le détroit d'Hormuz, même si face aux signes annonciateurs d'une possible catastrophe économique, les Européens en particulier reconnaissent la nécessité de trouver une solution. Aucune décision n'a été prise. Probablement que la crainte, notamment de provoquer une escalade guerrière, aura en partie paralysé les débats. Pendant ce temps, Israël continue de son côté et sans relâche de bombarder sans retenue l'Iran et le Liban. À Téhéran, tout d'abord, les habitants ont passé une nuit éprouvante, sinon d'épouvante, racontée par le correspondant de RFI pour France Culture, Siavash Ghazi.
J'ai été réveillé à 3h du matin par 4 ou 5 puissantes détonations qui venaient donc d'un lieu à 1,5 km de là où j'habite, sur les flancs de cette chaîne de montagnes d'Alborz qui surplombe la capitale iranienne. Des frappes très très puissantes, les plus puissantes que j'ai entendues depuis le début de la guerre. Des bombes GBU sans doute qui visaient donc cette cible militaire dans cette partie de la ville. Donc la souffle est venue jusqu'à notre immeuble et donc conséquence, le cadre de la fenêtre, une baie vitrée de 4 mètres de long et 2 mètres 70 de haut, s'est déplacé, donc a pris cette distance de 5 cm depuis le mur, donc une souffle particulièrement importante. Ces détonations sont allées jusqu'à plusieurs kilomètres aux alentours, puisqu'un ami que j'ai interrogé, qui vit à 2 km de là où je suis, m'a dit que les vitres de son appartement avaient volé en éclats après ces 4 ou 5 explosions dans le nord de la capitale iranienne.
Un témoignage du correspondant de RFI pour France Culture à Téhéran, Siavash Ghazi.
Et toujours en Iran, l'armée israélienne annonce ce matin l'élimination de l'un des principaux dirigeants du pays.
Oui, son nom Ali Larijani, le secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale, mais pas seulement, puisque les frappes de la nuit dernière auraient également tué le général Soleimani, chef de la milice du Basiji, l'appareil répressif central de la République islamique. Thibault Lefebvre, bonjour.
Bonjour Thomas.
En direct de Jérusalem, depuis l'élimination du guide suprême Ramenei, Larijani était devenu, Thibault, l'un des principaux visages du pouvoir iranien.
Oui, annonce israélienne en milieu de matinée, annonce du ministre de la Défense Israël Katz, pas de confirmation côté iranien pour le moment. Israël Katz qui affirme dans un communiqué que les deux hommes ont rejoint Khamenei, dit-il, et tous les membres de l'axe du mal au plus profond de l'enfer. Un ton messianique pour une guerre de décapitation du régime des mollahs et des gardiens de la révolution qui continue. Rappelez-vous Thomas, au premier jour du conflit, le guide suprême et 40 hauts dignitaires militaires sont morts suite à des bombardements israéliens. Et donc cette nuit, lors de nouvelles frappes sur Téhéran, le chef de la force paramilitaire Basij, 10 autres hauts responsables de la milice et donc le plus haut responsable de la sécurité du pays auraient été tués. Ali Larijani, vu pour la dernière fois en public vendredi lors de manifestations dans la capitale iranienne. Je vous rappelle que Téhéran n'a pour le moment pas confirmé cette information. Et peut-être pour brouiller les pistes, un message a été posté en milieu de matinée sur le compte X du même Ali Larijani. Il s'agit d'un hommage à des marins iraniens tués la semaine dernière.
Merci Thibault Lefebvre en direct de Jérusalem. Au Liban, cette fois-ci aspiré là encore par la guerre, Israël a mené ce matin d'importantes frappes sur des quartiers de la banlieue de la capitale et de nouveau ordonné aux habitants d'évacuer une vaste partie du sud du pays. Puis parallèlement, l'État hébreu a annoncé mener des incursions au sol le long de la frontière avec des troupes et des blindés. Et la conséquence de cette campagne de bombardement massif, c'est le nombre aujourd'hui de déplacés, plus d'un million depuis le début de la guerre, un habitant sur six. Alors on se souvient qu'à l'automne 2024 déjà, le pays du Sennar avait connu une crise humanitaire similaire lors de la guerre de deux mois qu'il avait opposée au gouvernement de Benjamin Netanyahou, sauf que cette fois-ci, la nouvelle stratégie d'Israël est d'interdire purement et simplement aux civils de rentrer chez eux. C'est du moins l'inquiétude formulée par le ministre libanais de la Culture, Ghassan Salamé, invité ce matin de nos confrères de France Info. On l'écoute.
Ce qui est nouveau cette fois-ci, c'est que les villages d'où viennent ces personnes déplacées sont en train d'être rasés entièrement par l'armée israélienne. Il y en a déjà 35 qui ont été entièrement détruits. Ce qui fait que, contrairement à 2024, ces personnes déplacées ne peuvent plus espérer revenir très vite dans leur village pour les reconstruire comme ils l'ont fait auparavant. Cette fois-ci, on voit bien que la nouvelle stratégie d'Israël est de les empêcher de revenir et pas seulement d'empêcher les combattants de venir sur cette zone tampon entre le Liban et Israël qu'Israël est en train d'essayer de construire, mais d'interdire aux civils aussi de rentrer.
Voilà, le ministre libanais de la Culture, Ghassan Salamé, invité de nos confrères de France Info. Enfin, toujours s'agissant de cette guerre régionale, plusieurs explosions ont été entendues à Abu Dhabi, aux Émirats Arabes Unis, puis à Bagdad. 4 personnes ont été tuées à l'aube par des tirs de missiles. Rappelons qu'en Irak, les groupes pro-iraniens revendiquent quotidiennement des attaques contre des intérêts américains ou des sites pétroliers.
En Afghanistan, plus de 400 personnes ont trouvé la mort hier soir dans une frappe pakistanaise sur un hôpital de Kaboul.
C'est du moins ce qu'annoncent ce matin les autorités. Ce bilan n'a pas pu être vérifié de sources indépendantes, mais des journalistes sur place confirment avoir vu dans la nuit des dizaines de cadavres extraits des décombres, ce qui, le cas échéant, Nathanaël Charbonnier, constituerait de loin l'attaque la plus meurtrière dans ce conflit qui oppose donc les deux voisins depuis maintenant plusieurs mois.
Il faut savoir que les frappes ont eu lieu hier en début de soirée vers 21h30 et que depuis, l'hôpital est assailli de personnes qui veulent avoir des nouvelles de leurs proches. Les dégâts sont impressionnants car un toit s'est effondré et l'explosion a projeté de nombreux objets tout autour des bâtiments. C'est un hôpital connu des habitants de Kaboul car il accueille entre 2 à 3 000 patients, notamment des toxicomanes. Le porte-parole du ministère de la Santé afghan précise que l'attaque de ce centre est une violation des conventions de Genève et du droit international, une déclaration qui vient contredire la version pakistanaise qui explique avoir bombardé des cibles militaires et terroristes. Le conflit entre les deux pays existe de façon plus ou moins larvée depuis des mois et des mois, mais il a véritablement pris une autre ampleur le 26 février dernier, lorsque le Pakistan a revendiqué une guerre ouverte. Le pays reproche notamment aux Afghans d'héberger le mouvement TTP, des talibans pakistanais qui remettent en question l'autorité d'Islamabad.
Et je précise qu'à l'instant, le ministère de l'Information pakistanais dément avoir visé un hôpital de Kaboul.
Midi et 38 minutes sur France Culture, la suite de votre journal, Thomas Cluzel.
À l'exception de Paris et Marseille, la gauche a donc décidé de faire front commun dans plusieurs grandes villes, malgré l'absence d'accord national entre le Parti Socialiste et la France Insoumise. Les annonces d'alliance se sont accumulées hier en à peine quelques heures, de quoi susciter parfois de sévères critiques à gauche, en particulier chez François Hollande et Raphaël Glucksmann, mais aussi bien sûr alimenter un procès en opportunité. Comment une hypocrisie de la part de toute l'opposition réunie de Renaissance au Rassemblement National en passant par les Républicains. Alors c'est vrai qu'il apparaît difficile aujourd'hui d'y voir très clair dans la stratégie des socialistes qui n'ont pas eu de mots assez durs durant toute la campagne pour dénoncer selon eux les outrances intolérables des insoumis. Les mots hier du premier secrétaire se suffisent à eux-mêmes tout en rappelant son désaccord profond avec le leader insoumis Olivier Faure d'y comprendre parfaitement les choix des candidats socialistes qui se sont alliés à LFI. Pour lui, il ne s'agit pas de petits arrangements pour sauver des sièges. Un jeu d'équilibriste toutefois délicat, d'autant qu'en plus d'avoir accepté donc des ralliements insoumis, le Parti à la Rose a aussi consenti par endroits à se ranger derrière LFI. Alors ce jeu des alliances n'est pas visible partout, bien entendu, même à gauche, certains prétendants préféraient entériner leur désaccord à ce stade. Il devrait y avoir au deuxième tour 1097 triangulaires, 352 de quadrangulaires, 49 quinquangulaires, 5 sexangulaires et une septangulaire, preuve que les guerres fratricides ont encore de belles heures devant elles. Quoi qu'il en soit, cet entre-deux tours vient donc confirmer la profondeur de la crise politique, et pour en parler avec nous, invité de la rédaction à présent, Frédéric Savicky, professeur de sciences politiques à Paris, un Panthéon-Sorbonne, chercheur au Centre européen de sociologie et de sciences politiques. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Parmi les tout derniers rebondissements ce matin, le candidat LFI à la mairie de Marseille, Sébastien Delogu, arrivé en quatrième position du premier tour, a annoncé le retrait de sa liste du second tour face au risque d'une victoire du Rassemblement National dans la deuxième ville de France. Le tout en dénonçant une nouvelle fois l'irresponsabilité du maire de gauche sortant Benoît Payan, lequel a refusé de saisir la main tendue par la France Insoumise. Je vous propose de l'écouter, on en reparle juste après.
En refusant tout front antifasciste au second tour, Benoît Payan fait la démonstration éclatante que le combat contre l'extrême droite valait moins à ses yeux que la soif de pouvoir. Face à l'irresponsabilité d'un homme, nous serons responsables pour 1 million. Nous sommes, face au RN, le plus solide rempart. Marseille ne doit jamais tomber dans les mains de ces gens-là. Ici, à Marseille, les socialistes sont arrivés en tête et ils ont fait la démonstration de leur irresponsabilité et de leur sectarisme. L'histoire les jugera. C'est dans cet esprit de responsabilité que nous prenons la décision de retirer notre liste et de ne pas participer au pari inconséquent de Benoît Payan. L'orgueil et l'ego d'un homme ne doivent pas précipiter notre ville dans l'abîme.
Monsieur Savicky, je reviens vers vous. On vient d'entendre donc la très grande véhémence de Sébastien Delogu à l'égard de Benoît Payan. Comment expliquez-vous que la situation se dénoue dans la tension donc à Marseille, là où des alliances se sont nouées beaucoup plus facilement et pacifiquement ailleurs?
Oui, à Marseille, et puis on pourrait dire aussi à Paris, où là, Sophia Chikirou reste candidate, mais où il n'y a pas eu d'accord qui a pu se faire. Bon, ça renvoie quand même à la virulence de la campagne électorale à Marseille et à Paris entre LFI et le Parti Socialiste. Donc, évidemment, il y avait le risque d'une victoire du Rassemblement National qui aurait pu conduire Benoît Payan à accepter une fusion, mais il y avait aussi le risque inverse, c'est que cette fusion ensuite soit, en quelque sorte, lui soit mise sur le dos par une partie d'électeurs de centre-gauche qui ne sont pas favorables à LFI. Donc c'est un dilemme plus général dans lequel se sont trouvés tous les candidats ou maires sortants socialistes dans beaucoup de villes. Il a été tranché dans la plupart des cas, vous avez raison, par une fusion technique souvent, qui suppose normalement derrière qu'il n'y aura pas de co-gestion de la ville, pas d'adjoint par exemple de la France Insoumise, mais évidemment il y a des exceptions, mais il y en a d'autres. Compte tenu des relations entre le PS et LFI, finalement c'était quand même finalement le bilan qu'on doit retenir, c'est quand même la possibilité finalement in fine de rapprochement plutôt que la persistance de certains cas d'opposition forte.
Et hier soir le président de Renaissance, Gabriel Attal, critiquait le Parti Socialiste en affirmant que la multiplication donc de ces accords entre LFI et le PS dessinait un accord national de fait entre les deux parties, contrairement à ce qu'avait annoncé Olivier Faure avant le premier tour. Est-ce qu'il existe effectivement une sorte d'accord national entre ces deux parties selon vous ?
Il n'y a pas d'accord national. Parce que l'accord national aurait supposé que déjà dès le premier tour, il y a eu des listes communes, comme ça a été le cas d'ailleurs pour les élections législatives en 2022 et en 2024. Donc on voit bien qu'on n'est plus dans cette configuration-là. Il y a aussi eu des nombreux cas de villes, encore maintenant, où il n'y a pas eu d'accord programmatique ni même de fusion de listes entre les socialistes et LFI. Donc il y a bel et bien pas d'accord on pourrait dire, nationale, mais il y a des réalités locales qui s'imposent et qui font que, au vu des socialistes comme de LFI, il est préférable que des municipalités restent à gauche plutôt qu'elles ne basculent à droite ou que, voire dans certains cas, elles basculent à l'extrême droite. Voilà, c'est, je pense que ce sont quand même d'abord des élections municipales avec des enjeux qui ne sont pas négligeables, à la fois sur le plan des communes, mais aussi des métropoles, des intercommunalités, en termes de politique publique, sur le logement, sur le transport, sur la sécurité. Et donc.
Alors, monsieur Savicky, est-ce que vous nous entendez? Je crains qu'on ait perdu la liaison donc avec monsieur Savicky, professeur de sciences politiques à Paris 1, Panthéon Sorbonne, chercheur au Centre européen de sociologie et de sciences politiques. Je crois qu'on vous a retrouvé. Lorsqu'on observe la rapidité donc avec laquelle des alliances se sont nouées à gauche dans de très nombreuses villes de France, on peut avoir l'impression que Paris et Marseille font figure d'exception, comme s'il existait en somme un seuil à partir duquel les questions de politique nationale et d'affrontement entre les partis l'emportaient sur les considérations strictement local, est-ce de cela dont il s'agit?
Monsieur, oui, bien Savicky. Sûr, Paris et Marseille sont des symboles, mais je pense que oui, c'est bon. Oui, je suis là. Vous m'entendez?
Oui.
Allô? Je vous entends.
Nous aussi, allez-y.
Vous m'entendez? J'ai plus de retour.
Alors, on va essayer à nouveau de rejoindre monsieur Savicky. On s'interrogeait donc sur les questions de politique nationale, d'affrontement entre les partis qui pourraient éventuellement l'emporter dans certaines villes sur les considérations strictement locales. Est-ce que nous avons retrouvé monsieur Savicky? Sinon, on passera à un autre sujet. Alors, les trois quarts des Français ont déjà renoncé à au moins un acte de soin ces cinq dernières années. Et parmi les raisons avancées, outre le budget et la distance à parcourir, le principal motif concernerait donc le délai d'attente pour obtenir un rendez-vous. C'est ce qui ressort du dernier baromètre de l'accès aux soins publié par la Fédération hospitalienne. Les précisions de Tara Schlegel.
Par rapport donc à avant le Covid, effectivement, les délais se sont beaucoup allongés. Il faut 8 jours de plus pour avoir rendez-vous avec un généraliste, donc 12 jours en ce moment. Pour certains spécialistes, le temps d'attente a doublé depuis 2019. Le baromètre indique 3 mois d'attente pour un cardiologue, 4 mois et 2 semaines pour un dermatologue. Conséquence, des reports de soins vers les hôpitaux, dont l'activité, ça c'est une bonne chose, a progressé de 10% si on prend la médecine et la chirurgie. Malgré cette hausse, qui veut dire des recettes supplémentaires, le déficit des hôpitaux pourtant s'établit à 2,7 milliards, notamment parce que l'État ne remplit pas ses obligations. C'est ce qu'a noté l'IGAS, l'inspection des affaires sociales, rappelle Cécile Chevance, elle est responsable du pôle finance à la Fédération hospitalière de France.
Ça, les missions l'ont effectivement, IGAS et IGAS-IGF l'ont effectivement confirmé. On est effectivement sur des mesures RH de revalorisation salariale qui étaient nécessaires, attendues et légitimes, mais qui n'ont pas été totalement compensé à hauteur de 1,7 milliard. Et puis nous, on considère qu'il y a également un impact de l'inflation qui n'a pas été suffisamment compensé entre 2022 et 2024.
Pour la FHF, il est donc nécessaire de redresser la situation financière de ces établissements qui sont un peu le dernier rempart contre les inégalités d'accès aux soins qui se listent aussi dans nos territoires. On voit notamment avec le baromètre que un Français sur deux a déjà consulter les urgences pour des motifs non urgents, en particulier faute de rendez-vous en ville.
Et retour à présent donc sur cette entre-deux-tours des élections municipales avec notre invité. On a beaucoup parlé jusqu'à présent donc de cette alliance PS LFI controversée, commentée du côté des Républicains. Cette fois-ci, la situation peut sembler analogue au PS, puisqu'on a là aussi un parti que l'on disait jadis de gouvernement qui maintient de bonnes positions, mais fait face à la montée d'un concurrent plus radical. Pourtant, quand bien même Bruno Retailleau donc a appelé dès dimanche soir à faire barrage à LFI en reprenant une expression qui s'appliquait naguère à l'extrême droite seulement, cette similitude ne va pas jusqu'à nouer des alliances.
Non, en effet. Alors, il y a peut-être moins de cas stratégiques qui se présentent pour LR, et d'une certaine façon, c'est un peu une chance pour ce parti. Donc, il n'y a pour l'instant pas de situation où des candidats des Républicains, à la fois aient fusionné leur liste avec une liste de Rassemblement National ou se soient retirés pour permettre l'élection d'un...
Alors je précise qu'il pourrait y avoir malgré tout une exception, puisque selon le Canard enchaîné, la candidate d'extrême droite, Sarah Knafour, aurait décidé de retirer sa liste pour le second tour à Paris et laisser le champ libre à l'ancienne ministre de la Culture, Rachida Dati, sans que l'on sache d'ailleurs si cette dernière lui a offert quelque chose en retour pour ce renoncement inespéré.
Oui, mais là, c'est une initiative qui viendrait à ce moment-là de Reconquête et pas de LR. Et je pense que à Paris, il serait assez étonnant, effectivement, que ça se traduise par une fusion des listes ou un rapprochement programmatique. Donc, pour l'instant, on pourrait dire que les Républicains en tant que tels conservent les mains propres.
C'est bien noté, merci Frédéric Savicky, professeur de sciences politiques donc à Paris, un Panthéon-Sorbonne, chercheur au Centre européen de sociologie de sciences politiques, d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à Loïs Guérin pour la préparation et pardon pour cette liaison donc altérée. On termine avec un mot du temps pour cet après-midi et un ciel partout lumineux. Quant aux températures, elles seront comprises entre 12 et 22 degrés. C'est la fin de ce journal, il était réalisé par Alison Vicrobeck et à 18h, vous avez rendez-vous avec Stanislas Vazak pour le prochain journal de la rédaction.